Il sonne 11h en cette journée du mardi 21 février 2023. Je vous imagine bien nombreux à être en place pour écouter le Club La Presse sur les antennes de Canal FM, de Radio Lumière, de Radio La Paix, La Voix des Plateaux, de Radio Centrale FM, de Radio Sama FM, de Radio Daoul, de Radio Courtoisie, si ce n'est les radios numériques ou encore l'application Canal FM ou encore la chaîne YouTube. Eh bien, vous ne serez pas déçus, nous sommes bien en place, n'est-ce pas, avec la technique Jérôme Dakouta et Daté Vitoma. Au studio ici, notre Montchosson national, Dieudonné Kodolakina, qui nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, très chers SAS, auditrices, auditeurs de Radio Canal FM. Salutations à vous.
Également Eric Pakoudjo Hugues Johnson du journal L'Union. Bonjour.
Bonjour SAS, bonjour Dieudonné, bonjour chers amis auditrices et auditeurs de Canal FM.
Et aujourd'hui, hein, nous avons une intention particulière pour les auditeurs de Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, où tous les Togolais qui parlent la langue Naoudoum, c'est-à-dire le peuple Naoudba, c'est pourquoi nous faisons l'effort de les saluer dans leur langue. Nourodbio, les Béolais, vous nous excusez, l'accent qui n'est pas le vôtre, mais c'est les Naoudba qui sont à l'honneur bientôt. Vous le serez incessamment, le temps que le troisième confrère invité nous rejoigne et s'asseye. Il s'appelle Kofi Gan Nicolas Digbli. Bonjour.
Bonjour Chasse, bonjour fidèles auditeurs de Canal FM.
Merci. La pensée
tu
du jour.
Tu m'as pas salué. Hein?
Bonjour confrères, bien sûr, qui sont à table.
La pensée du jour, nous la tirons de la grande chanteuse Edith Piaf, que nos parents ont connue. Edith Piaf qui a écrit que « Il y a des silences qui en disent long, comme il y a des paroles qui ne signifient rien. » Encore une fois, il y a des silences qui en disent long, comme il y a des paroles qui ne signifient rien. J'espère bien que les paroles que nous allons dire durant les 90 minutes du Club La Presse ne seront pas rien, n'est-ce pas, Montoso?
Espérons et prions.
Espérons, prions. Justement, c'est la foi. Je ne sais pas si Montoso est chrétien catholique. Sinon, il saurait et il le sait que nous sommes le Mardi Gras. Le Mardi Gras aujourd'hui, demain, ce sera le mercredi des cendres et ce sera parti pour les 40 jours de carême pour le monde chrétien jusqu'à l'aboutissement de la Pâque. Donc déjà aujourd'hui, les chrétiens, autant qu'ils sont, entrent dans une intense période d'activité spirituelle, de prière et de méditation et de ressourcement sur soi. Maintenant, dans le monde plus profane, le 21 février, c'est la journée mondiale des guides touristiques. Nicolas Digbli, cette journée mondiale des guides touristiques, que sûrement nous sommes nombreux à découvrir aujourd'hui, parce que la profession de guide touristique est très peu connu au Togo, malgré que notre pays dispose d'un certain nombre de sites touristiques ou encore d'événements de notre histoire qui auraient pu constituer des valeurs à valoriser, si on peut se permettre la tautologie. Mais un petit mot à l'endroit des guides touristiques, Nicolas.
Oui, en fait, c'est un métier qu'on banalise dans notre pays. Aussi, c'est parce que ce tort de métier, on n'a pas valorisé les choses, on n'a pas mis une bonne organisation de la chose. Je prends l'exemple, nous avons des sites touristiques au Togo, oui, mais à côté de ça, vous allez sur je prends régulièrement le cas de Palmier où j'y suis chaque fois, c'est quoi, vous allez voir ces guides touristiques qui disent ils vont prendre telle monnaie, telle somme avant de vous y amener et autres, l'argent la rentre où, qu'est-ce qui a été prévu, qu'est-ce que la mairie, la commune, la préfecture a mis en place pour que ça puisse être organisé. Le plus souvent on ne voit pas ça et on constate malheureusement que ces fonds vont dans la poche de qui, on ne sait pas. Donc vous savez aujourd'hui c'est, puisque aujourd'hui c'est la journée mondiale de guides touristiques, ce sera l'occasion pour les guides touristiques de s'organiser pour valoriser leur métier et faire mener une communication autour de ça pour que les gens puissent savoir vraiment que le métier de guide touristique est vraiment un métier qui peut être valorisé. À côté de ça, est-ce que au niveau du ministère du tourisme, ils valorisent les sites touristiques au Togo aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir ce ministère de nom, mais tenez-vous bien, quels sont les financements? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour donner pour valoriser le tourisme au Togo avant que ces guides ne puissent vivre de leur emploi, de leur métier? Ça n'existe pas. Aujourd'hui, vous allez constater que dans tout ça là, le socle, c'est le ministère du tourisme. Et puisque rien n'est fait, rien n'a toujours été fait comme au Togo. Et vous allez voir un jour, on va nous tomber avec une conférence pour dire non, nous sommes en train de faire ça, nous sommes en train de faire, mais rien ne se fait.
Merci.
Non, il faut reconnaître que lorsque de la tête les choses se font d'une manière correcte, les gourous touristiques ne peuvent que vivre de leur métier.
Merci.
Mais puisque ce n'est pas le cas, on ne voit pas leur
choses. Tout n'est pas si nul que ça. Parce que je me rappelle quand j'étais encore étudiant au département d'allemand de l'université de Lomé dans les années 80. Hein, nous exercions un peu ce travail-là. Hein, c'était l'agence Togo Voyage qui nous sollicitait les week-ends, les congés, les vacances. Nous conduisions des touristes à travers le Togo. Je ne vous cache pas, mon Tosso, que cela nous rapportait un peu d'argent aux étudiants que nous étions.
Par-delà les étudiants que vous étiez, mais aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, Nicolas Brossé a un tableau en fait que moi je vois que je voudrais relativiser du moins parce que pour des gens qui sont réguliers à Kpalimé au moins naturellement dès que vous arrivez à Kpalimé, que ce soit à Kpalimé, que ce soit à Togoville, que ce soit en tout cas toutes ces villes qui ont encore des sites qui attirent quelques touristes à Boudrafort par exemple, vous avez toujours des jeunes organisés. Aujourd'hui, d'ailleurs, même, il y a plusieurs agences qui se constituent, des agences de voyage, des jeunes qui organisent des safaris et qui sont souvent en contact avec le monde occidental. Et ça se passe... je n'invente rien, mon cher ami Nicolas, mais ça se passe vraiment bien. Maintenant, je suis tout à fait d'accord qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une certaine organisation qui vienne du plus haut niveau. En l'occurrence, du ministère du tourisme. Mais il faudrait peut-être aussi aller à l'information pour voir ce qui se fait au niveau du ministère du tourisme avec ces jeunes. En tout cas, généralement, nous avons des a priori sur ces jeunes, surtout quand vous allez à Kpalimé. On a l'impression que c'est des jeunes, excusez-moi, parce que très souvent, l'image, c'est des jeunes qui portent des dreadlocks, par exemple, qui traînent souvent avec des blancs. C'est pas raciste ce que je dis. Et on a une certaine appréhension, on a des préjugés sur eux. Mais en vérité, c'est des jeunes qui sont organisés, qui sont dans un corps de métier qui n'est peut-être pas valorisé. Moi, je découvre ce jour qu'il existe une journée consacrée, une journée mondiale consacrée au guide touristique. Mais donc, on se rend compte qu'il existe un métier comme ça, qui a forcément sa place dans la chaîne. Et pour un pays, vous savez que dans le plan quinquennal du gouvernement, le tourisme
a fait une très gouvernementale.
Le tourisme a une place très très importante. Le tourisme fait partie des leviers sur lesquels on mise. Maintenant, si on ne veut pas justement que ce vœu reste un vœu pieux, il faudra travailler peut-être à mettre en valeur donc un corps de métier.
Merci. C'est juste rappeler que c'est la journée mondiale du guide touristique ailleurs. C'est une profession bien organisée, bien codifiée.
C'est ce que je dis.
À ne pas confondre
vraiment,
avec
ces petites organisations où les gens font du n'importe quoi.
Également,
et à côté de ça, quand vous prenez le Sénégal, le tourisme fait partie, est un poumon, est un levier de l'économie du Sénégal.
C'est toute une industrie.
Qu'est-ce qu'en est-il exactement? Et quand on parle de journée internationale des guides touristiques, moi je veux qu'on laisse ces groupuscules-là qui s'organisent et mais seulement que ce métier puisse nourrir
justement,
son nombre. Donc quand on me dit aujourd'hui que
non,
quand on va à Boudrafoy, il y a ceci,
non,
et à
plaît,
côté
Nicolas,
de ça, le tourisme,
oui, on t'a écouté.
La destruction des espèces.
Mais Nicolas, merci. On va écouter Eric aussi.
L'autre, on n'a plus rien.
Si nous rappelons la journée, Eric, c'est pour dire que c'est une profession des gens en vivent. Moi-même, comme étudiant, je l'exerçais un peu à côté, mais ailleurs, c'est des professions dans des pays qui codifient cela et qui valorisent vraiment toutes les potentialités touristiques de leur pays. Eric, c'est juste pour ça que nous avons évoqué cette journée.
Je voudrais d'abord recadrer un peu les choses. Vous savez, quand on parle de guide touristique, c'est quelqu'un qui a passé un examen d'aptitude professionnelle dans le domaine. C'est quelqu'un qui connaît un peu l'histoire des sites touristiques où il va exercer. Et donc, quand nous regardons un peu ce qui se passe chez nous, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de guides touristiques qui n'ont jamais été à l'école du tourisme. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas en réalité les sites où ils exercent. Et Nicolas vient de donner un exemple du Sénégal. Quand vous allez par exemple à l'île de Gorée, et comment il s'appelle le vieux qui vient de... Ndiaye qui vient de décéder. Mais Ndiaye vous raconte l'histoire de l'île de Gorée.
Mais avec... c'est une invention de l'île de Gorée là, hein.
Oui, oui, mais de toutes les façons, quand vous y allez, il vous raconte exactement comment la traite des nègres se passait avec l'île de Gorée. Ça veut dire que c'est un monsieur qui maîtrise son domaine. Aujourd'hui, ce que nous pourrons dire, c'est que c'est vrai, il faut réorganiser le milieu tout en disant, tout en montrant à ceux qui veulent exercer ce métier-là, qu'il faut forcément avoir une carte professionnelle qui est délivrée par le ministère du Tourisme. Tant que vous n'avez pas cette carte-là, vous n'êtes pas un guide touristique officiel. Tout se fait de manière officieuse chez nous. Et donc, je rejoins Nicolas qui dit qu'il faut quand même que tout ça s'organise à partir du ministère. C'est vrai. Mais maintenant... encore que nos sites touristiques qui regorgent de beaucoup d'histoires soient quand même valorisés eux-mêmes.
Merci. Nous continuons. Je disais tantôt qu'aujourd'hui, c'est nos compatriotes Naouda qui sont à l'honneur. Nous avons essayé de les saluer dans leur langue. Nrodbio, hein, les Béolé, parce que c'est nos compatriotes Naouda, ou bien Nadba, c'est selon, hein, qui se sont retrouvés le week-end dernier. Hein, les Naoudba qui habitent les localités de Vakbosito, de Logopé, de Sogbosito et de Legbasito se sont retrouvés pour exécuter leur danse traditionnelle Naoudbina. Et comme nous le rappelle le confrère Le Médium, on a vu des hommes et des femmes, des jeunes, des vieux, des personnes âgées, en accoutrement de circonstances, qui ont rivalisé d'ardeur et d'adresse dans leur danse traditionnelle, pour dire que le tourisme, c'est aussi notre culture, c'est aussi le terroir, c'est aussi nos danses traditionnelles qu'on gagnerait à valoriser. Actuellement, le Brésil connaît son carnaval, mais si nous nous organisions mieux, nous pouvions également organiser des festivals de danse traditionnelle de nos pays. Et ainsi, d'Anero à Karan, passant par Agou de Nicolas Koufigan, il y a des tas de chants, des tas de danses qu'on pourrait écouter, visiter. Eric ?
Oui, je pense que tout ça, comme je le disais tantôt, il faudrait qu'il y ait des gens qui connaissent l'origine de cette danse-là, qui arrivent à voir ce que ça représente chaque pas de danse dans, pendant ces festivals-là. Parce que, ça, vous savez, si on veut valoriser quelque chose, c'est qu'il faut connaître cette chose-là. Mm-hmm. Malheureusement, pour nous, nous ne maîtrisons pas tous les contours de ce que nous présentons à l'étranger, puisque nous parlons de tourisme. Le tourisme, c'est voyager, et aller quelque part, sortir de son milieu traditionnel pour aller vivre temporairement quelque part et découvrir des choses. Maintenant, ce que vous venez de découvrir, il faut qu'on vous explique ce que c'est, à quoi ça sert et pourquoi, comme ça, vous avez fait du tourisme. Et je pense que cette journée doit quand même réveiller un peu les dirigeants, surtout au niveau du ministère du tourisme, pour valoriser ce métier.
J'aimerais bien voir notre Montchosson un jour au cours d'une danse traditionnelle de son pays. Je ne sais pas si c'est Camou ou bien quoi chez toi.
C'est bien Camou.
Ouais. Camou. Et à côté de Camou, tu connais encore quoi? Alors, c'est pas maintenant qu'il faut chercher. Non, les danses Kabyé, de ton pays Kabyé.
Je sais qu'on parle de Kabyé, une danse sacrée carrément.
Oui.
Mais je préfère m'en tenir aux deux. Kamou et Kabyé.
Merci.
En tout cas, une danse.
Eh bien, le jour où tu vas danser Kamou, tu m'inviteras, je vais faire le reportage.
Ben, je t'inviterai volontiers.
Merci. Et nous continuons avec la littérature. Merci à Togo Matin, plutôt au journal L'Union, qui entretient toujours cette page de culture. Si j'en parle, c'est que bientôt. L'Union va consacrer 2 pages entières à la culture, Eric.
Si c'est possible.
Ça va être possible. Eh bien, commençons par cette hôte, cette hôtesse de marque que Lomé va accueillir incessamment. Il s'agit de Dame Djaili Amadou Amal. Elle est camerounaise. Elle est écrivain ou écrivaine. Elle a été lauréate du prix Goncourt des lycéens en 2020. C'est une telle dame qui arrive en fin de semaine pour s'offrir aussi bien aux lycéens que aux habitués de l'Institut français de Lomé.
Oui, effectivement, Dame Djaili Amadou Amal sera à l'Institut français de Lomé du Togo pour présenter ses 2 romans qui ont fait d'elle un héros de la littérature africaine. Et vous savez, tu l'as déjà annoncé, elle a été lauréate du prix Goncourt des lycéens en 2020. Elle a vécu dans une famille polygame et surtout musulmane. Et donc, elle a vécu des situations un peu délicates. Elle a vu ses mamans, elle a vu ses grands-mères vivre la chose. Et donc, elle s'est transformée à une défenseresse
de la
cause féminine. Et elle se bat aujourd'hui pour que la nouvelle génération ne subit pas le même sort que ce que sa maman et ses grand-mères ont subi. Et donc, à travers ses romans, elle essaie de dénoncer ce qui n'est pas bien dans sa famille religieuse et surtout dans sa communauté. Et donc, à travers elle, on sent quand même qu'aujourd'hui, ça bouge un peu dans cette communauté-là. Et donc, elle va présenter ces 2 romans, Walland, l'art de partager, un mari. Vous imaginez que vous êtes une femme et vous êtes obligée parce que vos parents ont accepté que vous épousez un homme déjà marié, vous allez partager votre mari avec une autre femme. Vous imaginez les circonstances dans lesquelles ça se passe et de quelle manière les femmes vivent cela dans leur âme et dans leur corps, mais sans pouvoir se défendre, parce que c'est la tradition. Et donc,
oui, la tradition, mais tout n'est pas que mauvais. Je suis un exemple, je suis né dans une famille polygame. Même si mon père est mort très tôt, nous avons grandi ensemble, en harmonie, entre nos 3 mamans, jusqu'à ce qu'elles nous quittent. C'est pour dire que la polygamie, ce n'est pas que mauvais, même si certaines personnes ne font que la noircie. La polygamie, telle que nos pays africains l'ont connue, jusqu'à récemment, certaines familles encore qui la connaissent, tout n'est pas mauvais, Eric.
Oui, tout n'est pas mauvais, Sas. Par contre, ce que vivent les femmes dans leur âme, vous ne pouvez pas le sentir, si ce n'est pas elles-mêmes qui en parlent. Ça, c'est vrai. Nos parents ont vécu dans ça. Tu le dis, tu es sorti d'une famille polygame, c'est vrai. Mais si ta maman voulait véritablement exprimer ce qu'elle ressentait à certains moments de sa vie, ça, je suis sûr que tu n'accepterais jamais
bien,
cela.
Le débat sur la polygamie, on le tiendrait à une autre séance.
Et c'est vrai.
Mais revenons plutôt.
C'est vrai c'est vrai que tout n'est pas noir.
Oui.
Tout n'est pas noir parce que vous savez, il y a certaines femmes qui n'arrive pas à vivre seul avec un homme, parce que ça devient un poids. Un homme qui sort, qui revient, qui ne bouge pas, qui ne va pas quelque part, tout mais ça, Eric, ça pèse.
Ce débat, on y reviendra un jour, mais revenons donc à Djaïli Amadou Amal, écrivaine, mais également fortement engagée contre les discriminations sociales et pour l'amélioration des conditions des femmes dans le Sahel. Je rappelle que Djaïli est de l'extrême nord du Cameroun, dans la zone du Sahel. Alors, un autre écrivain à l'honneur, c'est le compatriote Kossi Efoui, qui vit en France, où il écrit depuis. Il vient de sortir son sixième livre intitulé « Une magie ordinaire ». Et comme toujours, c'est les éditions Seuil qui ont édité ce livre, qui est disponible au prix de 17,50 €, un livre de 160 pages.
Oui, qui va bientôt sortir chez nous. Et donc, Kossi Efoui n'est plus à présenter. On le surnomme l'enfant terrible de la littérature. Si vous voyez l'homme lui-même dans son accoutrement, dans sa façon de vivre, etc., vous savez, il a fait des études philosophiques à l'université du Bénin. Aujourd'hui, université de Lomé.
Oui.
Et donc, il s'est retrouvé en France grâce à une bourse qu'il a eue. Et donc, Kossi Efoui continue par nous émerveiller avec ses romans. Aujourd'hui, le titre qui va bientôt sortir est Une magie ordinaire, qui parle d'une femme joyeuse et inspirée et aimante. Et une mère courageuse, mais dans un monde d'absolu dénuement, et qui surgit grâce à une genèse d'une vocation d'écrivain. Kossi Efoui est en train de peindre une mère qui lui a dit « Mon fils, tu ne peux pas rester ici parce que tu as les os fragiles. Il faut que tu quittes ce pays. Je préférerais te voir quitter le pays, aller mourir quelque part. Quand tu pars, ne reviens pas. » Et donc, il s'agit comme une prophétie, et qui a permis à Kossi Efoui d'éclore et de nous présenter d'aussi bons romans.
Kossi Efoui, qui est de ma génération à l'université du Bénin, deuxième moitié des années 80. Nous étions département d'allemand, lui il était en FISA, mais il était très coutumier avec les Guy Missodé, les Kanyi Alem, et de notre confrère aussi, Ega, Chris Ega. C'était notre génération. Nous étions les grands frères de Montchosso à l'université à l'époque.
Grand frère ou pas, Kossi Efoui, en tout cas jusqu'à ce jour, même pour ceux qui ne sont pas de sa génération, Kossi Efoui reste un écrivain modèle dans la mesure où il fait partie effectivement de ces plumes qui font rayonner le nom du Togo à l'international avec tous les prix. Je voudrais peut-être même rappeler que la pièce qui a été jouée au Palais de Lomé le week-end est une œuvre de Kossi Efoui. Kossi Efoui, il faut le rappeler, il est dramaturge avant d'être romancier. Ouais. Donc, dramaturge très connu. Théâtreux, entre guillemets, très très connu et très célèbre aussi sur ce coup. Donc, en tout cas, quelqu'un comme moi, je suis très pressé de découvrir son nouveau roman.
Eh bien, c'est Une magie ordinaire aux éditions Le Seuil, 160 pages au prix de 17,50 €. Tu convertis en francs CFA et tu as le répondant. Pendant ce temps,
dans la mesure où ça ne fait pas le prix de plus de 10 bouteilles de bière, mon cher Sass, donc ça
c'est ta référence.
Non, mais je le dis de façon générale pour tous les Togolais, parce que ça fait partie des plaisirs sains. D'accord,
plutôt que
nous le disons, on peut se priver de 10 bouteilles de bière.
Si nous achetons les livres publiés par nos compatriotes, nous les soutenons, les écrivains, nous soutenons les maisons d'édition, nous soutenons également les imprimeries et nous soutenons notre propre culture. Parce qu'un livre qu'on lit, Nicolas, c'est un voyage qu'on fait.
Vraiment, un livre qu'on lit, c'est un voyage qu'on fait. nos compatriotes, en l'occurrence Efoui, en est un exemple, mais à côté de ça, que fait-on de nos langues nationales?
Oui.
Voilà que quelqu'un qui écrit aujourd'hui, on voit qu'il écrit en français. On donne une visibilité à la langue française. Et qu'en est-il de nous, nos langues locales?
Ouais.
On me dira aujourd'hui qu'il écrit comme il le titre Nkunundé, et que ça soit en Évé, ou bien que ça soit en Kabyé, ou bien que ça soit, et que les gens puissent avoir accès d'une manière locale. Je pense que ce serait bien aujourd'hui partout. C'est vrai, il ne vit que de ça, c'est normal. Mais à côté de ça, qu'en faisons-nous de nos langues locales? Il pouvait, s'il arrivait à écrire ce livre dans une de nos langues locales et qu'on puisse valoriser nos langues locales, je pense que c'est important. À côté de ça, venant sur la camerounaise, sur la camerounaise, aujourd'hui, elle parle, dans le livre qu'elle parle de ceux, la polygamie et autres liés aux difficultés d'une manière ou d'une autre. Il faut reconnaître aujourd'hui qu'elle pouvait, dans un sens, écrire ça dans sa langue, en béti, en garois ou en quelque chose, pour qu'elle puisse attendre plus sa couche pour laquelle elle se bat. Et aujourd'hui, tout ce que nous faisons, même la langue que je parle actuellement français, nous essayons de valoriser rien que le français. Et c'est dommage. Ce qui fait même que dans nos pensées, même nous sommes français. C'est grave.
Parce oui, que Nicolas, après, tu as en partie raison, c'est vrai, nous parlons en français, hein, nous lisons en français, nous écrivons en français, mais la culture, elle est universelle.
Culturelle est universelle, mais à côté de ça, nous
devons quelque part. Merci.
Non, non, mais mon cher, ça, c'est, excusez-moi de placer un petit mot. La question que pose Nicolas, c'est toujours posée en littérature. Excusez-moi. Et c'est une question qui taraude beaucoup d'écrivains africains, mais qui n'ont de la célébrité que parce que ils vivent en Europe. Excusez-moi de le dire. Mm-hmm. Mais c'est des questions.
La Cameroun ne vit pas en Europe.
Oui, non, mais c'est des questions sérieuses abordées toujours en littérature. Parce que d'ailleurs, même en vivant en Europe, on a un regard décentré sur son propre continent. Vous imaginez un peu. Donc, alors, un écrivain existe forcément pour un public. Alors, écrire pour en nos langues, c'est tout à fait, c'est bien, il faut le clamer, mais en réalité, pour quel public? Combien sommes-nous à pouvoir lire dans nos langues?
En vérité, c'est là où il faut valoriser. Oui. C'est là où il faut valoriser.
Non, 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 je suis d'accord, mais je suis d'accord.
Aujourd'hui, nous avons par exemple une académie.
Combien...
Nous avons une académie Évé.
Non, mais combien.
Tu vas me dire aujourd'hui que lorsque on va dans ce sens ou qu'on valorise le Kabyé, on valorise
Nicolas,
l'Évé.
Je ne dis
est-ce
pas non,
que
mais
les gens ne vont pas avoir accès non. à la chose. Est-ce qu'on dit ça, c'est comme je dis penser français. Non. C'est ce qu'il est en train de faire. Non. Parce qu'on pense que c'est parce qu'il faut écrire dans telle langue. Non.
Togo Press, Togo Press, Togo Press a des pages.
S'il vous plaît.
Alors, le quotidien national Togo Press a des pages en Évé et en Kabyé. Mais combien on peut se poser
la question?
Combien?
Il y a des gens quand ils prennent.
Merci, merci, merci. Le débat sur les langues. Nous y reviendrons dans une autre vie. Pour le moment, revenons à l'ambition du Togo d'assurer une autonomie alimentaire en faisant en sorte que les producteurs agricoles augmentent leur rendement, produire en quantité, en qualité pour nourrir la population togolaise, mais également pour créer des chaînes de valeur pour que l'agriculteur puisse également vivre de son œuvre. C'est ça l'ambition, si je ne m'abuse, que le Togo entretient dans la promotion des forats des producteurs agricoles, dont l'épisode 4 va se tenir en fin de semaine dans la région centrale. Je présume ce sera Sokoné, le chef-lieu. Et le médium en parle aujourd'hui, c'est d'ailleurs le titre à la manchette, Faux-Pâte centrale, rendez-vous à partir du 23 février, c'est-à-dire à partir du jeudi. Et l'Union également en parle, Faux-Pâte centrale, les producteurs vont évaluer les actions du gouvernement dans la région. Et Montosso, c'était le titre à la manchette de Togo matin hier, où ton journal présentait un peu la carte agricole de la région de la région centrale.
Mais parce que la région centrale, après la région de Plateau, toujours présentée comme le grenier, reste une région, alors entre guillemets, sérieusement concurrente de la région des Plateaux. Et donc la région centrale dispose de beaucoup d'atouts. Et il nous semblait très important de revenir un peu pour décrire et présenter ces avantages, ces atouts qui font que effectivement l'étape 4 donc de ce forum puisse choisir donc la ville de Sokodé ou la région centrale. Donc, c'est une initiative forcément à encourager et que le numéro 1 togolais lui-même prenne le devant comme ça, à chaque étape. On l'a vu de l'étape numéro 1, en passant par l'étape 2, 3, jusqu'à l'étape 4 donc, qui s'annonce. C'est le numéro 1 togolais lui-même qui prend le devant. Pour nous, c'est un message assez fort. Pour dire
assez fort FORT.
Assez fort FORT, en effet, oui. Pour dire que, en tout cas, l'agriculture doit rester une priorité. Vous savez, actuellement au Togo, depuis hier, s'est ouvert donc une grande réunion de la CEDEAO, de l'agence régionale de la CEDEAO, qui s'occupe des questions donc de la sécurité alimentaire. Et cette réunion rassemble tous les experts, toutes les éminences grises qui s'occupent donc des questions de la sécurité alimentaire. Et notre compatriote Kakunu Bupo, qui se trouve être le commissaire chargé de l'agriculture à l'UEMOA, a lancé encore cet appel hier. La question de l'insécurité alimentaire nous guette et à plusieurs titres. Il faut sérieusement que nos pays travaillent, remettent l'ouvrage sur le métier pour lutter contre l'insécurité alimentaire.
Merci.
Là-dedans, il faut voir le problème du terrorisme que nous avons aujourd'hui. Ce ne sont pas des choses qui arrangent les choses pour l'agriculture. Il faut y travailler. Et puis, la crise mondiale aujourd'hui, marquée surtout par la guerre en Ukraine, qui a révélé tout ce que ça a révélé. Il est très important, et c'est pour ça qu'il nous paraît très important de saluer le fait que le numéro 1 togolais lui-même prenne le devant, comme ça, pour passer
Merci.
Ce message.
Ainsi, la région centrale, un rappel géographique, la région centrale qui couvre les préfectures de Blita, Sotoubou, la plaine de Mont, Tchaoudjo, Tchamba, si je n'en oublie pas, couvre une superficie de 13 469 km², dont 20% est couverte par les réserves de faune, de flore et de forêt classées. Le climat y est tropical de type soudano-guinéen, avec une pluviométrie allant de 1000 à 1500 mm. Ainsi, la saison est bonne. La région centrale dispose de 600 000 hectares de superficie cultivable. Et le Togo Matin nous rappelle encore qu'il y a un projet de 18 zones agricoles aménagées, planifiées dans la région centrale. Voilà les potentialités de la région centrale. Le forum lui-même va s'ouvrir le jeudi avec l'apothéose le samedi. Et comme le disait tantôt Montosso, sûrement que le chef de l'État va aller à la clôture le samedi avec son dialogue qu'il entretient avec les producteurs, sa visite des stands pour les produits qui seront exposés et sûrement les promesses qu'il va faire au monde agricole et les matériels dont il va les gratifier. Nicolas, nous en serons en fin de semaine au chapitre 4 du FOPAT. On est passé des savanes au plateau en passant par la maritime. Nous serons cette fois-ci à la centrale avant de boucler la boucle dans la COSA avec tout ce que le gouvernement
à Caracara
pour la dernière étape. Il y a l'agenda que déploie le gouvernement, il y a les préoccupations que les producteurs expriment, il y a également le débat, pour ne pas dire la polémique, que nous les médias et les réseaux sociaux nous alimentons.
Oui, au fait, c'est la pré-campagne 2025 qui continue, puisque ça a déjà bien commencé avec cette problématique de l'agriculture. Et tenez-vous bien, dans un pays où mon aîné dans le métier, Eric, m'avait fait savoir il y a de cela 3-4 semaines derrière, que non, il était proche des agriculteurs, il posait des questions, on disait que c'est celui qui faisait le projet. Dites-moi, après ça, qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui? Nothing. Selon mes sources, on n'a rien fait aux gens qui ont. Les projets ont été. Les fonds ont été débloqués. Les responsables de ces projets ont pris ces sommes-là. Les agriculteurs n'ont rien bénéficié. On a posé des questions aux gens. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien, nothing, rien. Jusqu'à aujourd'hui, mes sources ont été très, très affirmatives dans ça. Et on continue le youyou politique. et on dit qu'on s'approche des populations. En fait, comme si on n'était pas... On, c'est, je l'ai dit, ça fait comme si c'est maintenant qu'on vient d'arriver au pouvoir. Tenez-vous bien, après 17 ans d'exercice, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que les agriculteurs, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais c'est une aberration. Moi, je le dis, c'est la pré-campagne qui commence. Et on le fait bien. La stratégie, c'était quoi? C'est de finir dans la causa. La causa qu'on pense qui est son fief. Et là, on va essayer de voir l'apothéose, voir comment les gens, l'engouement, voir comment les cols blancs, les gens, les ventrus de devant ont pu mobiliser les gens. De ça, maintenant, ça donne une stratégie où on peut se donner une prévision pour 2025. Mais vous savez, on ne peut plus tromper les Togolais de cette manière-là. C'est you de choses. C'est l'argent du contribuable. Regardez, dans ça, on fait des tentes. Les tentes sont à combien qu'on les fait? Déjà, dans un état où on est, dans un pays, on gouverne depuis 17 ans déjà. On n'a pas un lieu dans cette région-là où on peut vraiment organiser quelque chose. Il faut des tentes rafraîchies, avec des montants exorbitants, avec des déplacements, les carburants, tous ceux qui sont derrière. Et ça, c'est l'argent du contribuable qui est toujours utilisé. Et on pense que, oui, c'est le développement de l'agriculture, le gouvernement, comme si c'est un gouvernement qui vient de tomber après 17 ans. C'est une aberration. Merci. C'est plutôt la pré-campagne qui a commencé. Merci. Et vivement qui
nous aviserons. On peut dire que les forats des producteurs agricoles, ce n'est pas une génération spontanée. Avant les Sephora,
c'est pour dire que les problèmes réels existent depuis 27 ans d'exercice. Je pense qu'on peut vraiment régler ces problèmes que de commencer ces you-you.
Mais avant le Sephora, on a connu d'autres entités où le chef de l'État également était allé au-devant des agriculteurs. Mais également, il y a les ZAP, les zones agricoles aménagées, planifiées, dont 18 sont prévues pour la région de la région centrale. Il y a également les agropôles. Il y a toute une... Bon, pour emprunter le terme à quelqu'un, il y a toute une batterie de mesures que...
Du vide, hein, où les gens polluent les choses, ouais. Où les gens bouffent les choses, où les gens détournent les choses, et les agriculteurs n'ont rien. Voilà quoi.
C'est à Eric. Donc, Eric, il y a quand même le rappel de ce que Faure Gnassingbé a initié depuis qu'il est au pouvoir, au profit du monde paysan et de la production agricole.
Pas seulement... Vous savez, chaque pays a quand même une politique agricole et qu'il faut dérouler. Et donc, je pense que ce qui se passe aujourd'hui avec Sephora, c'est tout simplement pour ramener tout le monde à une table pour voir ce qui va bien et ce qui ne se passe pas bien. Et donc, à partir de ce moment, on va encore trouver des alternatives pour que nous puissions quand même arriver à une autosuffisance alimentaire, puisque c'est l'objectif de Sephora. Je pense que ce que dit Nicolas est quand même important, parce que, vous savez, il y a eu beaucoup de projets dans ce pays, des projets agricoles, et qui devrait nous permettre d'aller beaucoup plus vite et encore plus loin. Mais s'il y a encore du retard, c'est que forcément, il y a des problèmes quelque part. Et pour trouver ces problèmes, il faut que les gens se retrouvent pour parler de l'agriculture. On ne peut pas rester dans un bureau et parler de l'agriculture. Ce n'est pas normal. Il faut sortir, il faut aller sur le terrain. Aujourd'hui, avec Sephora, les gens arrivent à s'exprimer, à dire clairement ce qu'ils pensent de notre agriculture. Je donnais l'exemple la semaine dernière du forum du FOPAT des plateaux, où les agriculteurs sont allés jusqu'à dire que leur progéniture délaisse certaines cultures au profit d'autres. Et donc, à partir de ce moment, il faut trouver la bonne formule pour que ces cultures-là ne soient pas délaissées. Parce que quand c'est délaissé, ça veut dire qu'on ne va même plus trouver ces
récoltes-là. Et ce sera une partie de notre patrimoine culturel que nous perdons ainsi.
Nous perdons ainsi. Et donc, il faut forcément que les gens s'asseyent pour discuter. Oui, la présence du chef de l'État peut poser un problème à ceux qui font la politique. Moi, je ne suis pas politicien, mais je suis juste un observateur de la chose. Je dis, si le chef de l'État se déplace, c'est parce que au plus haut niveau de l'État, il y a une prise en compte de tout ce qui se passe dans notre agriculture. Et je dis, c'est bien séant que l'on arrive à parler directement au premier responsable de notre pays.
Merci. Et puis, quand le chef de l'État il est à mobilisation, la dernière fois, c'est l'Union qui nous rappelait que aux apothéoses des forats, il y a des formes d'import-export, où le chef de l'État lui-même est surpris qu'il est allé discuter avec les paysans et que c'est des masses de population qui sont là pour l'acclamer. Comme l'a dit Eric, le politique trouvera toujours que ces faux pas sont l'occasion pour Fornasi et son parti uni de se mettre en pré-campagne. Mais ça, c'est une polémique de par le monde entier, oui. À la veille des échéances électorales. Oui, Nicolas ?
Vous savez, j'ai le ventre qui bouge lorsque...
Ah, attention, il n'y a pas de latrine ici.
On me dit aujourd'hui que cette manière de faire, il faut régler certains problèmes comme si on est en train d'amadouer un bébé. Vous savez, lorsque les agriculteurs aujourd'hui n'ont pas les intrants, on court de gauche. Je dis les agriculteurs n'ont pas d'intrants.
Oui, on t'a écouté.
La dernière fois, il y a eu même une proposition de ces producteurs agricoles qui demandaient à ce qu'on installe des chaînes de vente des intrants dans chaque canton de leur région.
Donc, depuis 17 ans, il n'y a rien qui a été fait.
Ça, c'est une proposition.
Nicolas, personne ne dit que tout est rose. Personne ne dit que tout est rose. La preuve, l'agriculture, ce n'est pas un métier très attractif. Hein. Aujourd'hui, le défi même, c'est que Fornasingbe aujourd'hui, ou tout président du Togo demain, arrive à inverser la tendance de l'exode rural. Que les jeunes redécouvre l'agriculture
plus à la roue, à la daba. Cette manière même, c'est mal déjà fait. Dans la mesure où même, quand vous allez dans ces régions, qu'est-ce qu'on fait réellement? Rien. Quand tu me dis aujourd'hui que l'agriculture, parce qu'il y a eu ça, dites-moi, de toi à moi, 17 ans après.
Oui,
attends,
Nicolas.
Toi, on parle aujourd'hui encore de 7 millions d'autosuffisants.
Nous disons tous.
Quand même.
S'il plaît, oui,
quand même.
Non, Nicolas, bon, mettez-moi
en
question.
Comprenons-nous.
Nicolas, s'il te plaît, Nicolas, montons-nous. Nous sommes tous Togolais. Nous vivons ici au Togo. Nous connaissons la réalité. Personne ne dit que l'agriculture est le domaine le plus rose au Togo, mais c'est déjà une chose qu'au sommet de l'État, on en soit conscient et qu'on retourne vers les premiers concernés pour parler directement avec eux, pour rectifier le tout. C'est pourquoi ce que nous disons, attendons la dernière étape de la CARA pour voir quelles sont les mesures que le chef de l'État prévoit vraiment lancer pour rendre l'agriculture plus attractive. S'il te plaît, Nicolas. Oui, mon chanson.
Non, mais... Cher Sass, je dis et j'insiste une nouvelle fois, mais personne ne peut soutenir que dans tel ou tel domaine au Togo, tout roule comme sur des roulettes. Ce n'est même pas possible. Nicolas, je te prie de me laisser.
Non.
Nicolas, je te remercie.
Nicolas, je rappelle que. Je rappelle que le code du club de la presse. Quand quelqu'un parle, les autres font l'effort de se taire et d'écouter. Nous sommes d'accord. Maintenant, écoute mon
Montesson. Amine.
J'insiste. Que le numéro 1, même du pays, décide de prendre le devant. Hein, décide de prendre le devant, surtout des apothéoses. Mais avec à la clé des échanges directs avec les producteurs. En tout cas, avec les acteurs concernés directement dans les régions. Pour moi, c'est plein de symboles. Naturellement, on est d'accord qu'il y a eu plusieurs projets, forcément avec des succès mitigés ou avec des échecs mitigés, entre guillemets. Mmh. On a connu le Forum national du paysan. Mmh. À un moment qui n'a plus jamais eu lieu. On peut se poser des questions. Mais aujourd'hui, quand on nous parle du Forum, quand on nous parle du FOPAT, et que le numéro 1 lui-même, comme ça, prenne le devant. N'oublions pas que le contexte, il y a 17 ans, n'est pas le contexte d'aujourd'hui. Il faut le dire encore et encore. Le contexte, les problèmes qui se posaient en termes de sécurité alimentaire, en termes de, ne sont pas les mêmes problèmes aujourd'hui. La guerre en Ukraine est venue, tout ça, tout
mais
ça.
C'est
guerre
en Ukraine. Non. Nous sommes ici. Non.
Nicolas, la parole est à Montesson.
Donc, mais pour moi, il était très important de comprendre ça, que le numéro un même, parce que, forcément, Eric le disait, mais quand on met les ministres, quand on met les politiques devant, entre ce qui se passe, entre les discussions, entre les ministres, les producteurs, et ce qu'on rapporte peut-être au numéro un, il doit y avoir forcément plusieurs... Et il était très important, à mon humble avis, que le numéro un lui-même écoute. Maintenant, attendons dans 3-4 ans pour évaluer ce qui va.
Merci. Alors, pour clore ça, ce que Nicolas dit, je présume que c'est pas Nicolas seul. Il y a peut-être beaucoup de Nicolas ici au Togo, hein, pour leur compréhension, leur réflexion sur le FOPAT. Ça doit être l'occasion pour le gouvernement de savoir que, hein, il est attendu au rendez-vous d'une réelle modernisation de notre agriculture qui rende le domaine plus attractif et améliore le rendement. D'ici là, passons à l'Assemblée nationale, dont nous avons tous appris que les députés ont été convoqués en session extraordinaire ce mardi à 15h, alors que nous sommes à 2 semaines jour pour jour de l'ouverture solennelle de la première session ordinaire de l'année 2023. Depuis hier, je cherche à connaître l'ordre du jour, ce qui fait que Dame Tchégan a convoqué les siens, alors qu'ils sont juste à 2 semaines de l'ouverture de la session normale. Moi, je n'ai pas encore eu d'éléments de réponse. Je ne sais pas si quelqu'un a une indiscrétion sur l'objet de la convocation de la session extraordinaire.
Oh oui, j'ai essayé d'appeler au niveau de la représentation nationale pour avoir l'ordre du jour. Mm-hmm. Mais tout porte à croire que ça va concerner quand même le test sur la justice militaire. Mm-hmm. Et donc, ce test-là a été voté tout récemment et je crois qu'il y a des modifications à lui apporter.
Mais le test, le projet du gouvernement n'a été voté par les députés que fin novembre, décembre. Oui. Alors, 1-2 mois, qu'est-ce qui urge si c'est cela?
Non,
s'il vous plaît. Nicolas, assurons-nous de ce que nous déclarons au cours de la presse.
Non, au fait, dis-moi, de toi à moi. Tu t'interroges sur quelque part. Moi aussi, je me suis interrogé sur quelque part. Je suis togolais. Il y a des faits qui sont là et c'est clair que nous nous interrogeons.
Donc, c'est ta façon de t'interroger aussi.
Parce que quand tu as dit ça,
il s'interroge très haut.
Deux mois après. Deux mois après. Maintenant, on court sur ça. Et qui est comment? C'est quelle session?
Extraordinaire.
Okay. Et pour avoir maintenant les choses.
Regarde, écoute
bien ce que le grand frère Eric a donné. C'est quoi? Il semblerait que.
Militaire. Non, officiellement, nous n'avons pas encore.
Attends, si tu veux, je me réfère à quoi? Parce qu'il y a eu des remous depuis novembre.
Nicolas.
Des affaires ont été sautées. Il y a eu des remous au sein des chefs corps.
Oui.
Il y a eu
attendant la fin de journée.
S'il te plaît,
Nicolas. Nicolas, je ne veux pas te brandir un carton jaune pour la violation du code du club.
C'est moi qui prends la parole.
Non, c'est moi qui donne la parole.
Ok, donne-moi.
Ok, attends que je te la donne. Donc, attendons la session extraordinaire pour savoir l'objet. Qui aura amené à cette session extraordinaire. Seulement, je rappelle que nous sommes à 2 semaines, jour pour jour. Ce sera le premier mardi du mois de mars que l'Assemblée va tenir solennellement sa première session ordinaire. Mais l'Assemblée, quand même, qui est active durant ses vacances parlementaires, la preuve, la semaine dernière, les députés ont rencontré la représentation de la Banque mondiale. Togo Matin nous le rappelle. Montesso,
dans votre dossier.
Oui, c'est un dossier que vous avez fait à la page 6, pardon. Développement, le Togo et la Banque mondiale entre stratégie et investissement. C'est cette rencontre qui a réuni les deux entités la semaine dernière. L'Union aussi en parle, les députés consultés pour l'élaboration de la nouvelle stratégie de la Banque mondiale pour le Togo. Nous en avons parlé la semaine passée.
Ça s'est passé le jeudi.
Ah, le jeudi, ok.
Oui, on n'en a pas parlé.
Ok. Donc, un petit mot sur cette rencontre Assemblée nationale Banque mondiale.
Oui, la Banque mondiale a désormais une stratégie de consulter les instances nationales pour évaluer ce qui a été fait après période dans le cadre du partenariat avec le Togo. Et donc, pour cette fois-ci, c'est l'Assemblée nationale où une délégation de l'institution a rencontré les émissaires de la Banque mondiale avec son représentant pour le Togo, M. Sissoko, et donc pour échanger, pour voir si la nouvelle cagnotte de la Banque mondiale qui va s'étaler sur 4 ans, c'est-à-dire de 2023 à 2027, et si cela correspondait effectivement aux besoins de l'heure des populations togolaises. Ce n'est pas forcément pour prendre de l'argent et distribuer aux Togolais, mais plutôt pour évaluer les différents projets que l'État togolais va proposer dans le cadre de ce partenariat avec la Banque mondiale. Du moment où c'est la Banque mondiale qui va financer ces projets-là, et il faut que ces projets-là aillent effectivement vers les populations qui seront les premiers bénéficiaires. Et cela doit aussi rentrer effectivement dans le cadre de la feuille de route gouvernementale. Il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a des priorités pour le gouvernement que la Banque mondiale
en somme, c'est avec le gouvernement que ce nouveau cadre sera finalisé et signé, mais la Banque mondiale étend ses consultations aux députés. Nicolas, on peut y voir quand même beaucoup de consultations à la base avant que le cadre ne soit finalement signé, avec l'espoir que toutes les préoccupations exprimées par le maximum des couches sociales du pays soient prises en compte.
Les financements que la Banque mondiale a déjà fait au Togo, qu'en est-il exactement lorsque ces financements sont avec des intérêts? Non, vous savez, quand on pense que, oui, les différences sont projetées 2023-2027 et que ça fait 4 ans et autres, dites-moi, les prêts et autres que la banque a déjà octroyés au Togo avec intérêt. Et qui est-ce qui vont payer ça? Qui est-ce qui vont payer ces prêts-là? Et qu'est-ce qu'on a fait de ces projets-là? Comment on les a réalisés? Moi, j'ai vu même la banque. C'est normal. Ceux qui donnent l'argent savent, réfléchissent. Ici, ils sont en train de voir. Puisque vous n'avez pas bien entretenu là. Maintenant, quand c'est comme ça là, comment on va faire? C'est tout. Et nos dettes qui sont là, vous allez nous les rendre. C'est ce qu'on ne dit pas au peuple. C'est ce qu'on ne dit pas au peuple.
Mais je sais que
c'est ce qu'on ne dit pas au peuple.
Passer les programmes.
Les programmes et autres. Qu'est-ce
que c'est pas la Banque mondiale,
c'est dans l'intérêt.
On est évalué.
Bien sûr.
On est évalué par le gouvernement.
Dans la mesure où les présidents n'ont pas été bien.
Peut-être mon choix qu'à l'avenir, l'Assemblée, enfin, les députés devraient être beaucoup plus présents dans le suivi de ces programmes et projets.
Non, mais n'oublions pas qu'il existe clairement un cadre de discussion permanente, la Banque mondiale et le Togo.
La parole est montée.
Naturellement, surtout avec la Banque mondiale. Et je crois bien, si je ne me trompe, que c'est la ministre secrétaire générale de la présidence,
Blamba,
qui est le point focal au niveau du Togo. Et donc, régulièrement et périodiquement, il y a des rencontres. Et bon, il y a forcément des choses qui ne se disent pas publiquement, mais au cours de ces cadres, au cours de ces assises, mais on évalue toujours. On fait un point ou une évaluation à mi-parcours des financements octroyés au pays. Et donc, mais c'est une nouvelle stratégie que la Banque mondiale a développée depuis un moment. Et ça ne concerne pas que le Togo, s'il vous plaît. Naturellement, presque tous les pays de la zone sont concernés. Moi, je pense que c'est très démocratique. Vous ne pouvez pas continuer par donner de l'argent, enfin, octroyer des prêts à des pays sans nécessairement consulter les élus. Donc, qui sont des représentants donc de la base, du peuple. Et moi, pour moi, je crois que c'est une initiative très démocratique à saluer.
Merci. Nous allons terminer par la gestion des fonds de la COVID. Les fonds de la COVID qui continuent à se faire entendre. Actu Express, dans sa parution aujourd'hui, revient sur le rapport d'audit de la Cour des comptes. L'article dit gestion calamiteuse des fonds de soutien COVID-19, le rapport d'audit de la Cour des comptes abandonné à son triste sort. C'est une interrogation de l'Actu Express qui parle quand même de la société civile avec cet autre article. Vent debout contre la banalisation du rapport de la Cour des comptes. Les organisations de la société civile demandent la démission du gouvernement et même envisagent de porter plainte contre X bientôt. Nous en avons parlé, nous le faisons, nous le rappelons. Et plutôt, nous continuons avec cet autre rapport sur les fonds COVID-19. Eric, c'est l'Union qui nous parle du rapport de fin de programme par COVID-19 de la BAD pour le Togo. L'article est assez long, trois quarts de page. Mais qu'est-ce que la BAD, la Banque africaine de développement, dit sur la part de son financement de la période COVID au Togo?
Alors, il faut déjà savoir ce que ça veut dire par COVID-19. Mm-hmm. C'est le programme d'urgence d'appui à la réponse au COVID-19. Et donc, c'est un programme qui a été rapidement initié par la Banque africaine de développement pour venir en aide aux pays africains en général. Et donc, il y a ce programme-là qui a été financé au même titre hein, pour trois pays. Il y a le Togo, le Burkina et puis le Bénin. Et donc, la Banque africaine de développement a dit que ce programme-là est terminé. Et donc, il faut évaluer, il faut faire un audit, il faut faire un rapport sur cet audit-là. Et c'est ce rapport-là qui est sorti. Et comme on le sait, la BAD, à travers ce programme-là, a ses objectifs bien précis. Et par rapport à ses objectifs, la BAD conclut quand même que pour le Togo, que la mise en œuvre de ce programme-là est jugée satisfaisante et les progrès réalisés pour l'atteinte de l'objectif de développement du programme sont très significatifs. Okay. Et donc, ça veut dire que, effectivement, pour la BAD, ce programme-là a été bien exécuté au Togo. Et donc, c'est un peu paradoxal.
Non, par c'est rapport... pas paradoxal. Chacun a sa façon d'évaluer.
Parce que les objectifs sont bien différents.
Et donc... Merci. Je rappelle juste que le par COVID-19, la BAD l'a financé pour trois pays, le Togo, le Bénin et la Guinée. Et Bénin. Donc, les objectifs, c'était de contribuer au renforcement de la capacité de dépistage, à l'amélioration de la couverture nationale en structure d'isolation des malades et à l'atténuation des effets socio-économiques de la crise sanitaire. Le Togo a eu à bénéficier d'une enveloppe de 4,64 millions d'euros, on convertit en CFA, et les conclusions de la BAD, effectivement, sont positives. La banque, la BAD, estime que les fonds qu'elle a mis au Togo ont été utilisés dans les objectifs définis du commun accord. L'article, c'est à la page 3 de l'Union, mais on peut avoir le rapport au complet. J'espère qu'on va lire ce rapport comme nous avions couru vers le rapport de la Cour des comptes.
Oui,
Nicolas ?
Oui, en fait, vous savez, nous n'essayons pas d'embrouiller dans ce qu'on dit ou bien ce qui se dit. Vous savez, la BAD, qu'est-ce que la BAD a fait? Dans ses stratégies, on dit, mettez un comité de ceci, mettez un comité de ceci, mettez celui de surveillance. Les comités ont été mis ou pas? Les comités ont été mis. Nous avons financé ou pas? C'est l'objet, c'est ça ce que la BAD dit. La BAD ne dit pas aujourd'hui que j'ai donné 3 milliards, les 2 milliards, les 2 milliards ont été utilisés, tel. Non, ce n'est pas ça.
Si.
Nicolas, justement.
Attends. Non. J'ai parcouru. J'ai parcouru, mais tenez-vous bien, moi, je n'ai pas vu de chiffres.
tu as parcouru quoi?
Le rapport, je n'ai pas vu de chiffres. Parce que quand tu essayais de lire, même dans dans le journal, oui. même dans le l'article en question, oui. même quand tu parlais des objectifs que là-bas dit qu'elle a atteint, oui. quand tu dis que les objectifs que là-bas dit qu'elle a atteint, les objectifs dans la, sur lesquels tu n'as pas parlé même de chiffres. Que là-bas est très clair de ceci.
Malheureusement, il est midi, on n'a pas le temps.
Attention, on nous dit,
s'il vous plaît, nous n'avons pas le temps malheureusement de détailler l'article, mais j'espère bien, Nicolas, s'il te plaît, j'espère bien que chacun pourra lire l'article du journal L'Union, ou encore mieux, avoir, disons, la totalité du rapport de la BAD, et nous pourrons toujours en parler en temps opportun. D'ici là, il est 12h, nous allons marquer une pause, le temps que Thomas adresse le message de Canal FM à nos partenaires, et puis nous revenons avec les auditeurs. Nous revenons à présent pour nous brancher sur vous les deux numéros, le 22-21-33-74, le 91-36-63-75. Nous vous prions juste de vous en tenir au sujet débattu aujourd'hui. Et pour le reste, liberté totale pour vos commentaires, pourquoi pas à vos questions. Thomas, déjà, nous étions en ligne.
Allô, bonjour.
Bonjour.
Pardon, je voulais vous renforcer pour le débat, mais...
S'il vous plaît, est-ce qu'on peut dialoguer?
Quoi?
C'est monsieur?
C'est monsieur Bernard de Pibet.
Ok, nous vous écoutons à présent.
Je voulais vous dire que le débat est riche sur les humains. Si vous parlez deux personnes, trois personnes en même temps, on n'arrive pas à vous comprendre.
Okay,
c'est ainsi bien. Que pour Madame Dadede aussi, à sa part, en avait aussi, parfois deux personnes, trois personnes parlent là, on ne comprend pas. Nous vous décidons de parler un à un pour que nous comprenions ce que vous êtes en train de dire.
Ok.
Merci.
Non, c'est bien noté. Donc, même si vous avez deux oreilles, vous souhaitez qu'une seule personne parle à la fois et vous nous comprendrez mieux. C'est bien noté, l'ami Bernard de Pubert. Nous en tiendrons compte. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Nestor.
Nestor.
Oui.
Vous nous appelez de?
Pardon?
Vous nous appelez de quel quartier, de quelle ville?
Quartier administratif.
Ok, nous écoutons.
Oui, concernant ce que monsieur Eric vient de nous écrire là.
Eric a dit beaucoup de choses, hein?
Pardon?
Eric a dit beaucoup de choses. Quoi concrètement?
Oui, concernant la gestion de Covid là, lui-là, pourquoi il a pris seulement une partie pour nous éclairer? Et tout ce qu'on a donné, l'argent que les partenaires nous ont donné, pourquoi il n'a pas éclairé là-bas?
L'ami Nestor, j'ai bien précisé que le journal L'Union parle du rapport du fin de programme de la BAD. Et j'ai même donné les trois pays bénéficiaires de ce programme, le Togo, le Bénin, la Guinée. J'ai donné le montant que le Togo a eu. C'est sur ça que la BAD a fait son évaluation et que le journal en parle.
Ça ne concerne pas la gestion de Covid.
Non, la preuve, j'ai évoqué même l'article de Actu Express qui est revenu sur le rapport de la Cour des comptes. Ça, c'est une chose. Le rapport de la BAD, c'est une autre chose aussi.
Bon, sinon, nous, on n'a pas besoin de... ce genre de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu problème au niveau de la gestion de Covid.
Oui.
Donc, s'il veut nous clairer de ça, là, ça n'a pas d'importance en ce moment.
Non, cher ami, vous avez besoin de toutes les informations pour vous faire une opinion bien éclairée.
Ok. Merci.
Je vous en prie, l'ami Nestor. Le troisième auditeur déjà en ligne.
Mon directeur, bonjour.
Papa Sibidi.
Bonjour mes directeurs, Nicolas. Vraiment, les Nicolas, ils sont forts, hein.
Ah bon?
Vraiment, Nicolas, le président. Bon, mes enfants, Mignan.
Ah oh.
Acceptez que je vous appelle mes enfants. Je suis votre père, même grand-père. Non,
nous sommes vos enfants, même petits-enfants.
Même. Bon, ce que je voudrais dire d'abord en Kotokoli.
Oui.
Des faits.
Mani.
En Mignan. Boko, Boko,
Bleu,
voilà, Bleu. Mais en tout cas, il y en a mis le cableton, mais c'est la mienne avec Bleu. Bah, est-ce que Miami, c'est la mienne avec Bleu de Kaveka? Donc, Boko, Bleu,
Yo, Misse. Akpena Ojan. Akpe Kaka Papa Sibiti.
Bonjour.
Bonjour.
Sourou.
Pardon?
Sourou.
Sourou. Vous nous appelez de?
Non, c'est Komi.
Ah,
comme les gens disent beaucoup là.
Ah, Sourou. Ok, oui.
Par rapport au déplacement du chef de l'État,
oui.
Moi, je vais encore l'interpeller.
Mm-hmm.
Parce que 17 ans de carrière, comparé à ce qu'il est en train de faire, moi, je le dis en toute franchise, si ceux qui l'entourent ne peuvent pas lui dire la vérité, monsieur le cher président, ce n'est pas bon. Si c'est pour l'agriculture que vous vous déplacez là, ce n'est pas ça. Nous sommes en train de voir que vous êtes en train de faire des pré-campagnes pour les législatives. Et les actes que vous avez déjà posés, là où vous avez déjà passé, montrent en suffisance que vous ne vous déplacez pas pour l'agriculture. C'est clair chez moi comme ça. Maintenant, sur le dernier sujet que j'aimerais interpeller, c'est la question de BAD.
Oui.
BAD nous a donné 4 milliards, n'est-ce pas? Et l'objectif, en lisant ces objectifs, on veut recadrer les Togolais dans les CMS, dans les hôtels. Si je comprends la résilience par rapport à la question du Covid. Et après qu'on ait fait intervenir des hôtels qui ne se trouvent que pour de nom, où il y a 3-4 hôtels qui ont pris la grande partie de la marge. C'est ça, la BAD veut nous dire que c'est une bonne gestion. Lorsqu'on achète des matériels comme les scanners mobiles, là, qu'on, à ce jour, on retrouve le vendeur dans des conditions qui ne sont pas dignes de ce nom-là, du marché public. C'est ça, la BAD veut nous dire.
Et l'ami Komi. Allô, Komi. En fait, je voudrais demander à Komi s'il a lu l'intégralité du rapport de la BAD, comme il avait fait pour la Cour des comptes. C'est également rappelé que la BAD n'a aidé le Togo qu'à hauteur de 24,64 millions d'euros. On fait la conversion en francs CFA. Et j'ai rappelé les axes sur lesquels a porté l'accord de financement. Et c'est ces axes-là que la BAC a évalué et donc par le rapport. Pour nous, c'est vous informer. Nous ne concluons en rien. Nous vous avons parlé du rapport de la Cour des comptes. Nous vous avons laissé apprécier. Maintenant, nous partageons avec vous le rapport de la BAD. Libre à vous également de l'apprécier. Mais seulement, nous voudrions que vous spécifiez chaque rapport. Le suivant. Allô? Oui, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Oui, c'est monsieur.
Apedo. Ouais.
Uh-huh. Vous appelez de...
Ouais, j'appelle de Adido Gomain.
Ok, nous écoutons.
Oui, c'est à M. Nicolas Adibili que je voulais laisser un message. Et je l'invite au professionnalisme. Ça, c'est un. De deux, vous, journalistes, ses collègues journalistes, il ne vous doit pas du respect. Nous, en tant qu'auditeurs, il nous doit du respect. Ok, merci et bonne journée.
Je vous en prie. Sinon, professionnalisme, nous faisons tous l'effort. Je comprends qu'il y a mieux à faire dans la diffusion des paroles pour que vous ne vous sentiez pas agressé dans vos oreilles, comme le premier auditeur l'a dit, et nous en prenons compte. Le suivant, oui, bonjour.
Monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Oui, Nicolas fait de bonnes analyses, de bonnes lectures des événements.
Oui.
Mais ce qu'on va faire, en complicité avec les techniciens, on lui coupe son micro après son intervention. Comme ça, on va bien le saisir. Il fait de bonnes analyses. Mais c'est avec son accord, bien sûr. On lui coupe son micro. Et quand il y aura encore la parole, on lui branche son micro.
Non, j'ai trouvé la solution.
D'accord.
Quand Nicolas viendra au club de la... Il viendra à jeun. Il ne va pas manger avant de
manger,
venir. Comme ça, il n'aura pas une surplus d'énergie.
Il sera comme l'autre là qui prend son Lipton seulement pour venir. Bon, il fait de bonnes analyses.
Merci.
C'est que ces messieurs ne sont pas arrivés au pouvoir il y a 5 ans. On ne va pas leur dire qu'ils se cherchent parce qu'ils ne connaissent pas le terrain. c'est les corps à biais qui disent c'est le terrain qui détermine l'action. Eux, ils sont sur le terrain, ça fait plus de 60 ans.
Oh non, non, Faure Gnassingbé a au pouvoir il y a 18 ans. Nous souhaiterions que nous entendions sur les termes. Faure Gnassingbé est arrivé au pouvoir en 2005. 2023 moins 2005, ça fait 18 ans.
Si on collaborait avec son père, c'est là qu'ils sont avec lui aussi.
Ok, maintenant, si vous élargissez, d'accord.
Oui.
C'est bon?
Bon, merci.
Je vous en prie, Sylvain Agbayi. Un suivant déjà en ligne? Oui, bonjour l'ami.
Oui, bonjour, c'est ça.
Oui.
C'est monsieur Kofi.
L'ami Kofi avec son accent chantant.
Oui, oui.
Oui, nous vous écoutons.
Je tiens quand même à vous féliciter pour le niveau du débat.
Mm-hmm.
Puisque notre grand frère essaie de contrôler la prise de parole, puis c'est fini.
Mm-hmm.
Je tiens quand même de très bonnes analyses. Mm-hmm. Je tiens à les féliciter pour ça.
Mm-hmm.
Ma question va au niveau de forum agricole là.
Oui.
Il y a un aspect que moi je trouve qu'on ne développe pas assez.
Oui, c'est
le problème du foncier.
Oui,
l'agriculture se fait sur le sol. Or, il y a un grand souci avec le foncier dans le pays. Mais cet aspect n'est pas suffisamment développé. Pourquoi on ignore de ce côté? Il y a beaucoup qui dérangent ou bien maltraitent carrément les constituants. Ils font ça au dos du chef de l'État. Ils se disent proche du chef de l'État. Mais on n'aborde pas ce sujet-là. Pourquoi?
Oui. Non, préoccupation vraiment justifiée. Je vais demander tantôt à Eric si à Takpamé, les producteurs ont abordé cet aspect avec le chef de l'État. Mais d'ici là, le suivant en ligne, bonjour.
Hello, bonjour.
Oui.
Monsieur
Nyamavo, nous vous écoutons.
Carton vert à Monsieur Nicolas.
Uh-huh.
Là seulement, on va lui demander de donner le temps à ses amis qu'il nous trompe. Mais nous, on le suit quand même dans sa réalité. C'est le réalisme. J'entends les autres dire qu'ils ne sont pas politiques.
Mais
ils sont prêts à parler des affaires de l'État. C'est comme au village, quand tu veux parler, critiquer l'État, on te pousse de quitter ici que tu es politicien, tu es opposant. Mais quand tu loues l'État, là, tu ne fais pas la politique.
Oui,
Monsieur
Nyamavo.
Oui.
J'ai cru entendre, vous avez apprécié Nicolas, c'est votre droit. Mais j'ai cru entendre que les autres vous trompent. C'est ça, vous avez dit ça?
Non, ça dit que ils parlent, les autres s'adressent aux crédules. Ceux qui acceptent facilement ce qu'ils disent. Ils sont libres, nous sommes en démocratie.
Oui.
Mais les crédules sont là pour les écouter.
Monsieur Nyamavo,
oui.
Je pense que nous nous devons du respect mutuellement. Vous avez le droit d'apprécier.
Oui, je comprends.
Mais je ne peux pas vous laisser dire que mes confrères ici vous trompent ou bien qui parlent à des crédules.
Je n'ai pas cité quelqu'un.
Non, vous avez parlé en français, j'ai compris.
Ah, donc, c'est tout comme le rapport de...
Monsieur Nyamavo, nous vous respectons et je vous prie également de respecter mes invités au studio.
Merci,
je vous en prie.
Et alors, par rapport au rapport, on parle de quoi et de la base. Aujourd'hui, les gens félicitent la base. Il ne félicite plus la Cour des comptes. Vous savez, le gouvernement a sorti son communiqué pour nous dire que c'est comme ça qu'il nous dirige. C'est aux citoyens de voir le gouvernement qu'ils ont en face d'eux. Quelqu'un lui disait que c'est les prévisions pour la campagne qu'ils font des sorties. La dernière fois, je vous disais que j'ai vu ça comme un gouvernement d'Angoulevent, une politique d'Angoulevent, c'est-à-dire à Valipo, en cabinet secret. Et 2005, lui, c'est lui, moi, c'est moi. 2010, la route de développement, comment parler de bas de la route. 2012, une minorité, ça capable des biens de l'État. 2015, comment l'appelle-t-on? Mandat social. 2018, PND, patatras, trading, patatras, on tombe dans les foras. Ça dit que, petit à petit, on nous conduit dans la mare. C'est au peuple de voir si réellement ce que Nicolas est en train de dire, il est en train de le tromper ou comment. Le gouvernement même a signé qu'il s'en tient aux conclusions. Vous prenez par exemple quelqu'un qui vous donne, un maçon qui vous dit qu'il a pris 31 tonnes pour construire votre maison de 3 pièces, dont les ciments, les briques ne tiennent pas. Et il fait les comptes, ils disent que les fonds ont été bien utilisés.
Merci, monsieur Nyamavo. Vous avez de la mémoire, c'est une bonne chose.
Merci.
Vous pouvez quand même que vous suivez l'émission. Tout ce que vous avez rappelé, c'est les journaux, le club, la presse, les émissions qui vous renseignent au jour le jour. Laissez-nous vous informer et vous ferez vos conclusions vous-même. Le dernier auditeur aujourd'hui.
Allô?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour, Père Eric. Bonjour à M. Nicolas Diblé.
Didier.
Bon, Didier.
Mm-hmm. Bonjour, Didier.
Ouais, bonjour. Eric, ça va?
Ça va.
Bon, monsieur Nicolas fait de bonnes analyses, mais semaine ne laisse pas les autres parler même. Il faut les laisser parler même s'ils veulent nous tromper. Ils n'ont qu'à nous tromper. Nous savons comment juger. Bon, Père Eric, moi,
non, 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 mais Didier, vous savez,
oui.
Si vous estimez que nous vous trompons ici.
Non, je ne dis pas à nous de juger si vous vous trompez ou pas.
Ok, en tout cas, nous faisons l'effort de vous informer. Prenez-le comme vous voulez.
Oui, mais puisque moi j'attendais depuis là que, comme le ministre a dit que nous ne serons pas libres, que c'est lui seul qui est agrégé, j'attendais Eric et puis Tchanyao et Fabrice pour qu'ils puissent nous expliquer bien ce que le rapport dit, mais aujourd'hui on n'a pas parlé. J'étais sûr et sur ma foi. Parce qu'eux, ils peuvent m'expliquer que je puisse bien comprendre quand nous on a fait derrière l'école et c'est le ministre qui connaît bien le papier. Peut-être Eric va joindre la voix, va bien lire le truc là pour nous expliquer. Moi, je voulais parler secondo de l'agriculture. Bon, l'agriculture, moi, je pense que le président il est en campagne parce que avant de parler de l'agriculture, il faut qu'il va en aval et en amont. Les agriculteurs nous poussent à rentrer dans l'agriculture. Moi, lorsque nous avons produit les récoltes, on va les vendre où? On a notre ami à Cacovie, sa petite sculpture qu'il a fait sur l'Angleterre, il n'arrive pas à produire. Les produits importés sont même moins chers que les produits exportés. Les intrants sont chers. Quand vous allez déjeuner, les intrants amenés, la journée est chère. Mais c'est le travail là que le chef d'État doit faire d'abord, planifier le terrain, voir comment, quand les gens vont payer en Europe, quand les gens vont produire, comment est-ce qu'on va les vendre en Europe. Quand l'État oblige les gens à cultiver, à produire, il les subventions, il est obligé de les prendre. Ici, vous obligez les gens à rentrer dans l'agriculture. Lorsqu'ils vont produire, les subventions, c'est les dettes que nous allons prendre, c'est les dettes qui vont rester sur nos têtes. Comment est-ce que nous allons faire pour vendre les produits? C'est ce que le chef de l'État a fait d'abord, avant de rentrer, pousser les gens à aller dans l'agriculture. Je vous remercie.
Je vous en prie, sous réserve de certains mots et expressions, je me réjouis quand même de la pluralité des opinions et du courage que nous prenons de plus en plus pour nous exprimer. Je souhaiterais seulement qu'il y ait un peu plus de courtoisie mutuellement et nous irons de l'avant. 93.5. Merci vraiment aux auditeurs. En avant, la liberté d'opinion et d'expression dans le respect mutuel, et le Togo sera une démocratie, peut-être avec nous ou avec nos enfants ou nos petits-enfants. Tour de table pour clore l'émission. Mondjoso.
Non, mais je voudrais... sans nécessairement vouloir répondre à tel ou tel autre, faire référence à la pensée du jour, pour rebondir et dire que il y a une chose qui reste certaine dans la vie, c'est que parfois, face à certaines situations, sinon après toutes les situations de la vie, toutes les grandes choses commencent dans le silence pour s'achever dans la méditation. Que tel ou tel autre ait un tel jugement sur nos propos, on s'en félicite et puis on pense ce qu'on peut prendre pour avancer de toute façon.
À ce niveau-là, tout en renouvelant ma gratitude et mes félicitations aux auditeurs, je dois quand même rappeler que ceux qui appellent sont une très petite minorité devant la masse des auditeurs du club. C'est pour dire
heureusement.
La vie d'un auditeur qui appelle n'est pas nécessairement la vie de tous les auditeurs du club La Presse.
Heureusement, mon très cher Sass. De toute façon,
heureusement que
pour nous, le travail ne fait que commencer.
Merci beaucoup.
Comme s'il n'y a jamais eu de travail. Donc, rendons-nous ou estimons-nous heureux.
Bon, tu as d'abord été enseignant. Continuons à enseigner.
Il n'y a pas besoin de rappeler tout ça.
Non, bon, c'est important.
La vie continue.
C'est important pour dire que l'enseignant doit continuer à enseigner.
Mais à partir du moment où son opinion, son avis pose problème à l'autre, mais autrui doit être questionner, creuser davantage. Mais avançons. Mais heureusement, tu le dis, mais vive la liberté d'expression.
Oui.
Vive mais la liberté.
Dans le respect mutuel, dans la courtoisie.
Bah, tu sais, mon cher, ça, encore une fois, c'est des concepts philosophiques. Parce que l'autre ne sait pas forcément ce que tu définis par le respect mutuel de l'autre. À partir du moment où vous entendez sur ces notions, ces concepts, on avance ensemble.
Merci. Avançons, ça vous carton vert pour nous tous. Nicolas Kofi-Gandigli.
Oui, c'est un plaisir d'écouter quelques auditeurs qui ont fait part de le fait de vouloir parler ensemble ou bien de vouloir parler quand l'autre parle. Vous savez, dans les interrogations ou bien dans les propos, le plus souvent, lorsque vous avez un collègue qui parle, il vous arrive de vouloir faire sortir votre idée, ça c'est spontané. Mais dire un soi-disant pédo, même si je trouve que ce n'est pas son nom, en entendant son dialecte, parce qu'il a peur de donner son vrai nom, pour dire que s'il est vraiment ce tapédo, c'est pour lui dire vraiment que parler de le fait que je puisse hausser la voix ou bien prendre la parole quand les autres parlent, oui, ça je l'admets. Comme on le dit, je fais toujours des efforts pour essayer de ne pas faire chose. Oui. Mais parler du professionnel, là, il m'atteint et je ne suis pas d'accord. S'il veut vraiment.
Non, ça, j'ai déjà.
Non, je vais lui dire.
J'ai déjà pris notre défense commune pour ça.
Ce qu'il a dit, c'est ne pas penser. Et c'est bête, voire il
refuse. Non, Nicolas, s'il te plaît. Nicolas, s'il te plaît. On dit que un grand peut s'abaisser devant un petit.
Ouais, c'est ça.
Il n'est pas toujours évident que le petit s'élève vers le grand. Okay. Mais nous devons garder ce statut-là, donner l'information. Et j'insiste sur le respect mutuel, la courtoisie.
Il ne m'a pas respecté.
En tout cas, au club de la presse, nous ne manquerons jamais de respect aux auditeurs et nous leur demandons de nous renvoyer l'ascenseur. D'existe un certain Aboyibo. Nicolas, moi plutôt Eric.
Et je comprends que mon collègue Nicolas s'offusque par rapport à ses propos discourtois. Je dis tout simplement, quand quelqu'un dit que ce sont les crédules qui nous écoutent, nous autres, je pense qu'il a pris le temps de nous écouter. Et malheureusement, il fait partie de ce lot de crédules. Et vous savez, nous sommes dans un débat. Chacun apporte son opinion. Chacun essaie de donner ce qu'il a. Nous ne faisons que rapporter de l'information et nous analysons. Mais nous ne donnons pas encore nos opinions. Tous ceux qui ont appelé aujourd'hui, très franchement, je pense que au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes que nous avons dans le pays, ils s'attaquent à ceux qui débattent là. Ce n'est pas normal. Voyez-vous, si vous voulez qu'on élève le débat, il faudrait accepter ce que nous disons. Que vous soyez d'accord ou pas, quand vous avez le temps d'antenne, dites ce de quoi vous voulez parler et tout simplement on va avancer. Moi je dis, je vais répondre très rapidement. Effectivement, quand j'étais à Tapamé la dernière fois, il a été question quand même du foncier et le chef de l'État a dit que les réformes de l'agriculture c'est un tout et que ça concerne également le foncier. Et il avait même dit qu'actuellement, il y a une amélioration des réformes foncières qu'on est en train de faire. Et parce qu'il a dit, vous avez des problèmes de foncier, nous le savons, et nous essayons de les résoudre.
Merci, voilà. Merci. Juste vous remercier, vous au studio, vous qui défilez tout le temps ici, gratuitement, à vos frais, je dirais même à vos risques, et également, merci aux auditeurs. Tout ce que je demanderais, c'est que nous sachions parler un langage de courtoisie, tout en disant notre vérité.
Entre guillemets, les crédules.
Non, carton vert à tous ceux qui disent leur vérité, tout en demeurant courtois. Et la courtoisie, c'est une marque d'élégance, de grandeur.
Donc, tu vois que mon cher, ça n'a pas été courtois, donc ça veut dire que c'est un fainéant.
Non, Nicolas, s'il te plaît. Eh bien, nous allons terminer en souhaitant joyeux anniversaire à monsieur cher auditeur, monsieur Dalmeda Makoué, depuis Adjido Gomé, Vous avez la courtoisie de nous adresser un coucou au club de la presse. Nous vous renvoyons encore avec l'élégance, la galanterie dans le ton, la courtoisie. Nous dirons toutes nos vérités pour un Togo que nous voulons de plus en plus allant de l'avant, de plus en plus émergent. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain mercredi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra. C'est les dieux Kabier, Kotokoli, Nauda, Eve et autres qui me l'ont confié.
Take it.